Bonsoir à tous, 16h passées de 30 minutes dans le studio de la Radio Armada. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce mercredi encore au compte de l'émission, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, un rendez-vous d'échanger, de débat, de rencontrer également avec les personnes de tout horizon. Et aujourd'hui encore, on parle de l'immigration, mais aussi la vie associative. Où que vous soyez, sachez que vous êtes bel et bien sur la page officielle Facebook de la Radio Armada. Vous pouvez nous écouter également sur le site www.radioarmada.fr. À ma droite, pour parler de la vie associative d'une association qui a un projet du côté de la Côte d'Ivoire, Zozo Flore. Bonsoir.
Bonsoir, Alassane.
Merci,
bonsoir à tout le monde.
Merci d'être venu.
Merci à vous aussi.
Ben voilà. Et également à ma gauche, vous avez Martine Doucouré. Martine Doucouré, une militante du mouvement MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples depuis 2005, après le terrible incendie de l'hôtel Paris Opéra qui a causé la mort de 25 personnes, femmes, hommes et enfants. Aujourd'hui, elle est avec nous dans ce studio. Bonsoir Martine.
Bonsoir Alassane, bonsoir tout le monde.
Ben voilà, je sais que c'est très difficile de vous avoir. Ça, c'est une émission qui a été programmée, qui aurait pu même être le premier numéro de l'émission. Compte tenu de vos agendas et quelques petits soucis également, on n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, franchement, moi, ça me fait plaisir de vous avoir dans ce studio, Martine. Comment ça va?
Ça va, Alassane.
Comment les choses se passent sur le terrain, le militantisme, MRAP, les luttes, tes soutiens aux sans-papiers, comment tout cela se passe? Ça se passe à merveille avec cette chaleur.
C'est dur avec cette chaleur. Oui. Je dirais que la différence, 24 ans en arrière, depuis 2 ans, je suis moins présente dans les manifestations que je n'ai pas cessé de faire. D'accord. Depuis ces 24 années, pour des raisons graves de santé. Donc, on ne me voit pas autant qu'avant sur le terrain, mais tous les jours, je suis à la retraite depuis 3 ans, 2017, tous les jours, je suis avec les sans-papiers. Je D'accord. fais leur dossier, j'accompagne dans toutes les préfectures.
D'accord. Alors Martine, je commence par vous, les questionnaires, on en a plein aujourd'hui, puisqu'il faut le savoir. J'ai fait juste, en fait, je ne vous ai pas présenté, c'est juste le nom, Martine Doucouré. Martine Doucouré, ça veut dire plein de choses. Martine, vous êtes dans nos studios, il y a plein d'auditeurs qui nous suivent. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on peut savoir de vous?
Alors, je suis l'aînée d'une fratrie de 9 enfants, dont le père était militaire de carrière. Et ma mère était femme au foyer et je suis pupille de la nation adoptée par la France par la guerre d'Indochine.
D'accord. Alors, je ne vais pas rester que avec vous. Il y a Flore également qui est dans ce studio. Flore, vous êtes avec nous. On va parler d'une association qui a un projet du côté de la Côte d'Ivoire et pas n'importe quelle association. Vous allez nous présenter cette association. C'est quoi ?
Merci, je suis Flore Zozo, j'habite le Kremlin-Bicêtre en France et effectivement l'association s'appelle Monde Solide à Nouveau et nous nous mobilisons avec les jeunes du Kremlin-Bicêtre mais aussi de l'Île-de-France dans l'ensemble pour la construction de l'école à Boisflé dans la ville des Côtes d'Ivoire.
D'accord, une Kremlinoise, ben après j'ai tout un problème de prononcer ça.
C'est la Kremlinoise, oui.
Une Kremlinoise, donc dans nos locaux pour parler de cette association que vous venez de présenter tout à l'heure. Cette association est bel et bien implantée, elle a son siège ici à Kremlin-Bicêtre, c'est ça?
Oui.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet que vous pilotez pour la Côte d'Ivoire?
Oui, donc l'association Monde Solide à Nouveau est soutenue énormément par le département, le département du 94. Nous avons le service jeunesse aussi qui nous soutient.
D'accord.
Au niveau du département, qui nous soutient financièrement et puis qui nous invite aussi quand il y a des événements. Et puis, nous avons bien évidemment la mairie du Kremlin-Bicêtre aussi, voilà, qui nous soutient aussi.
D'accord. Alors, Martine, on va parler aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes une militante, il y a tellement de choses à dire sur les sans-papiers, les migrants. Mais avant cela, on s'intéresse d'abord à vous, Martine, en particulier, votre vie de militante, votre vie de lutte pour la cause des sans-papiers. Martine, vous avez été fonctionnaire aussi aussi à la mairie de Paris. Et vous avez connu un patron que tout le monde, hein, voilà, pas que la France, mais le monde a connu.
Tout à fait. Pendant 47 ans, de 1970 à 2017, date de ma retraite, j'ai eu M. Jacques Chirac comme premier maire de Paris à la mairie de Paris.
D'accord.
Du 25 mars 1977 au 17 mai 1995, date de sa prise de fonction comme président de la République. À la mairie de Paris, j'ai occupé un poste de gestion en ressources humaines au sein de 5 directions de la ville de Paris, l'administration générale, la protection de l'environnement, la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, et aussi les affaires culturelles. Puis, à la fin de ma carrière, en 2007, j'ai occupé un poste de chef d'état civil et du relais information famille à la mairie du 9e arrondissement de Paris.
Alors, moi, la question, c'est bien, vous avez connu Jacques Chirac, il a été votre patron, vous avez occupé différentes fonctions à la mairie de Paris, tout ce qui, en tout cas, il y a plein qui se rappellent. Je me rappelle bien que vous avez également, tout à l'heure, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez lutté ensemble, on en parlera dans cette émission. La question que je vais vous poser, Martine, est de savoir comment vous vous êtes retrouvée militante, surtout pour la cause des sans-papiers. Je pense que vous avez un lien particulier avec les sans-papiers.
En effet, je me suis mariée en décembre 1995 avec M. Oussi Dupouré, ressortissant malien, qui se trouvait sur le territoire français depuis 1988 et dépourvu de titre de séjour. Sa famille venait de père en fils sur le territoire français pour travailler afin de donner une vie meilleure à leur famille restée au pays, et pour lui-même, comme cela s'est toujours fait depuis l'indépendance des 13 pays africains.
D'accord. Ben, vous avez parlé de M. Dukouré. Et comment est-ce qu'on peut, comment le feeling, comment la rencontre s'est faite, et jusqu'à ce que vous et un sans-papier se sont mariés, et finalement la cause des sans-papiers est devenue la vôtre?
Ben, c'est vrai que c'était une rencontre, une rencontre de la vie, parce qu'à la mairie de Paris, il y avait un éboueur, parce que je vous ai dit, j'ai travaillé à la protection de l'environnement, il y avait un éboueur guadeloupéen, la famille Villus, les frères, travaillaient dans le service que moi je gérais, et un des frères est tombé très gravement malade.
D'accord.
Très gravement malade, tellement bien qu'il a été en réanimation à l'Hôtel Dieu à l'époque, on pensait même qu'il ne serait pas en vie alors aujourd'hui que je vous parle. Et moi, je vais le dire plus tard, mais je suis secouriste et réanimateur aussi à titre humanitaire.
D'accord.
Donc, j'ai soutenu cette famille, sa belle-sœur et son frère, à l'accompagnement en réanimation à l'Hôtel Dieu, pour les soutenir dans cette épreuve. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le jour où il est sorti du coma, il m'a reconnu. Il était branché de partout, mais il avait les larmes qui coulaient sur le visage. Il m'a reconnu face à lui. C'était très émouvant. Et là, j'en ai un peu des frissons de vous en parler. Et là, en fait, moi, j'adore la musique, j'aime la danse. Les frères et belles-sœurs de ce garçon le savaient. Et c'était tellement une victoire qu'ils sortent du coma. Ils m'ont dit, Martine, on t'emmène à la maison, tu te changes et on va en boîte de nuit.
D'accord.
Et en fait, Monsieur Dukouré, c'est le hasard de la vie. J'ai rencontré mon futur mari dans une boîte de nuit, tout simplement.
Voilà. Alors, de la question migratoire, je vais revenir à vous, Flore. Cette association, je sais que vous avez aujourd'hui la priorité des priorités, c'est votre projet pour la Côte d'Ivoire, pour la construction d'une école dans une des localités de la Côte d'Ivoire. Donc, avant de revenir sur ce projet, quel est le but réel de la création de cette association? Puisque je sais que vous n'avez pas seulement que pour mission ou pour projet de construire une école.
Tout à fait. C'est vrai que les actions seront nombreuses. Là, déjà, pendant le Covid, quand même, l'association a marqué le coup aussi en distribuant des repas aux sans-abri. Donc, nous avons été ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
D'accord.
Nous avons été aussi au commissariat aussi pour soutenir les forces de l'ordre. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'école. Donc, on s'adapte aussi par rapport aux situations. Et puis, bien évidemment, après l'école, il y aura aussi d'autres choses. Donc, on sera sur un autre terrain, la rénovation, la réhabilitation de centres sportifs. toujours dans la ville de Boisfli.
D'accord.
Mais on a aussi des contacts déjà au Togo, au Bénin. Mmh. Voilà, donc c'est une affaire à suivre.
Ben voilà, justement, j'allais dire pourquoi la Côte d'Ivoire, tandis qu'il y a d'autres pays aussi qui ont besoin de ce genre de projet. Je sais que, d'ailleurs, ils vont nous montrer, mon technicien, il va nous montrer tout à l'heure quelques images de Boisfli où cette école sera construite. Donc, ben voilà, ceux qui nous suivent également sur la page Facebook de la radio pourront voir également les photos. C'est vraiment, le besoin est là. Le besoin est là.
Il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence parce que là, déjà, nous autres, on a la chance quand même d'être dans un bâtiment.
Justement, quand on voit l'image là, ça, c'est l'école qui est juste derrière.
Oui, c'est l'école actuelle qui est là. Bon, là, c'est vrai que c'est les vacances, bien sûr. Mmh. Mais sinon, c'est l'école actuelle qui est là. Mmh. Donc, sous 45 degrés, c'est impossible de tenir comme ça. Et on a aussi les enfants qui ont soif. Et voilà, c'est pas possible. Là, il y a vraiment urgence parce que l'école, c'est toute une vie. L'école, c'est la base de chaque chose. Si moi, je suis là aujourd'hui, je m'exprime, c'est parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école. Et là, c'est pas assuré pour les enfants. Donc, il y a urgence pour qu'on puisse vraiment aller construire les bâtiments aux normes pour ces beaux bébés-là. Voilà.
D'accord. Et là, c'est cette association qui est derrière ce projet.
Tout à fait.
Voilà. Alors, quand je vois cette école, je sais que c'est difficile aujourd'hui à en croire, en voyant cette image, on se dit que ce n'est pas possible. Mais pourtant, c'est bel et bien possible. Je me dis, est-ce que dans cette localité, il n'y a pas un bâtiment pouvant servir à l'école pour permettre aux enfants d'étudier dans des meilleures conditions, dans quand même, il n'y a que ça comme école.
Alors, à savoir que dans la ville, il y a effectivement des bâtiments. Donc, d'accord. C'est pas... Voilà, oui, je dis que les écoles ne sont pas comme ça.
D'accord.
Mais la population s'agrandit.
Oui, tout à fait.
Donc, il est important aussi de reconnaître quand même que par rapport à ça, les enfants qui sont vers ce quartier pourront aller encore plus loin. Là, ça va être encore compliqué les choses. Donc, c'est dangereux pour les enfants. Il y a les voitures, il y a des vols d'enfants, tout ça. Donc, pour éviter tout ce chemin long, vaut mieux... qui est justement cette école-là. C'est plus sécurisant, c'est plus rassurant pour les enfants et pour les familles.
Justement, comment vous avez choisi? Est-ce que le choix de Boisfli, parce que ce n'est pas la seule localité qui est en manque d'école.
Oui, c'est vrai. Dans d'autres endroits, il n'y a même pas l'école.
Oui, je suis d'accord.
Là encore, par rapport à ce
je
qu'on voit là.
Je suis d'accord, oui.
Donc, pourquoi Boisfli? Alors, je suis née à Boisfli.
D'accord.
Il y a une histoire à toute chose.
D'accord.
Donc, je suis née à Boisfli. Mais je n'ai pas souvenir de Boisfli.
D'accord.
Donc, c'est mon père, à la base, qui travaillait à la mairie. Mmh. D'ailleurs, qui n'est plus de ce monde. Mmh. Mais qui travaillait à la mairie. Et il a vraiment laissé un beau souvenir là-bas. Mmh. Donc, quand je vais en Côte d'Ivoire avec ma famille, j'aime bien aller vraiment en campagne pour mieux me reposer. Parce que Kremlin-Bicêtre, c'est vraiment Paris déjà. Mmh. Donc, je vais vraiment m'isoler un peu plus. Et du coup, on a vraiment apprécié déjà nos vacances. Mais c'est là aussi qu'on s'est rendu compte, en rencontrant les autorités et des personnes qui ont connu mon père, qui m'ont parlé des besoins de la ville. Parce que là, on ne parle que de l'école, mais il y a aussi à l'hôpital où il manque des tensiomètres, des thermomètres. Donc voilà, donc c'est vraiment vaste. Et c'est ainsi, pendant nos vacances, qu'on a pu échanger sur tout ce qu'on pouvait faire. Et le maire, le président de la région de la Maraoué, voilà, donc les rencontres se sont enchaînées avec les agents de la mairie. Et donc voilà comment le projet vraiment a eu forme pendant nos vacances.
Et c'est comme ça, vous avez été sollicité par...
par le maire.
Par le maire et puis aussi la localité,
oui,
la population de Boisfli.
Oui, la population, les enseignants déjà de ce lieu-là, là où il y a l'école actuelle. Et puis le directeur, avec qui je suis toujours en contact, vraiment ils sont prêts, pour le projet.
Voilà, en tout cas il va nous montrer encore cette image, Israël, mesdames et messieurs, en tout cas vous qui nous suivez, si vous voyez effectivement cette image, je sais que vous voyez déjà, c'est un projet, c'est pour la construction d'une école et c'est une association qui est derrière ce projet. Vous, en tout cas vous voulez, vous pouvez leur soutenir également en faisant des dons, en leur soutenir par quelque manière que ce soit pour que ce projet puisse avoir lieu. En tout cas, le besoin est là. Boisfli, nous sommes bien sûr du côté de la Côte d'Ivoire. Ben, même si j'aime bien quand je chahite comme ça avec les Ivoiriens, ils ont un petit mot. Je ne sais pas si tu vois bien, Flore.
Qu'est-ce que c'est? Dis-moi tout.
Eh bien voilà, tu sais, on dit les Ivoiriens ne voient rien.
Ah donc, oui, ça c'est...
Attends, toi là, il ne faut pas jouer ton malin là-bas, Israël, parce que je sais. Mais voilà, mesdames et messieurs, Martine Adoukouré, Zozo Flore, on va faire notre première pause musicale. On commence par toi, puisque c'est toi qui avais la parole. On va écouter quel
Merci.
Morceau
Michael Jackson.
Michael Jackson, Il The World, c'est ça, je pense.
Tout à fait.
Allez, vas-y, Israël.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
If you care. Au cœur de l'histoire, tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada.
Et sur le site www.radioarmada.fr.
Heal the World, chanté par Michael Jackson, le choix musical de Zozo Flore dans ce studio. Zozo, pourquoi le choix de cette chanson?
Alors, j'avais remarqué que notre grand chanteur Michael Jackson avait déjà chanté plusieurs fois entouré d'enfants.
Oui.
Et donc, ce projet que nous avons de l'association Monde Solidaire Nouveau et la construction de l'école, donc ça rejoint un peu sa chanson. Voilà.
Bah oui, parce qu'il aime les enfants.
Il aime les enfants, le bonheur des enfants, le bien-être des enfants. Donc, cette chanson a été choisie par rapport à ce contexte-là.
Eh ben oui. En tout cas, ça, je suis d'accord avec toi.
Merci.
Alors, Martine, ça va?
Oui, ça Parfait. Va, merci.
Alors, on fait un clin d'œil à notre ami Eric Durand, qui est toujours avec nous dans ce studio, qui devait aller à Migène, mais s'est trompé de sa date. Ben, demain, il va aller dans Lyon, en tout cas, dans Franche-Comté, c'est ça? Dans Bourgogne, voilà, c'est ça. Dans Bourgogne, tout à fait, parce que je connais un peu la Jaune, Migène, Joigny, et puis Crézeau, ainsi de suite, je connais un peu. Alors, Martine, avec vous, dites-nous, en quelle année a débuté votre militantisme?
En fait, en 2005, le drame de l'incendie de l'hôtel Paris-Opéra, mais mon premier engagement, chez la Croix-Rouge, en qualité de secouriste au comité local de Viry-Châtillon dans l'Essonne pour les secours aux blessés sur l'autoroute du Sud et sur le circuit de Montlhéry. Où, en 70, j'ai rencontré tous les grands champions automobiles comme Jean-Pierre Beltoise, François Chevert, Pescarolo et de moto Rougerie.
Voilà. Alors, depuis ça, quelque chose allait forcément se passer, ce qui va vous vraiment vous pousser, vous introduire dans le militantisme. Est-ce que tu peux nous en dire sur cette chose, voilà, le claquement de doigts, le coup de pouce?
Alors, je vais dire de façon peut-être surprenante, après la lecture d'un livre de poche, Il est minuit, docteur Schweitzer, précurseur de l'action humanitaire dans l'hôpital qui développe dans la forêt équatoriale, au bord de l'Ougoué, au Gabon, en 1913, pour soigner les lépreux. En 1952, il obtient le prix Nobel de la paix. Puis, le 18 mars 1996, je vois à la télévision les premières images de l'occupation de l'église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement, par des familles dépourvues de titres de séjour, maliens, sénégalais, mauritaniens, qui ont quitté un foyer de Montreuil afin de montrer leurs difficultés et leurs souffrances suite au changement des lois concernant les étrangers. Et là, je rejoins les familles afin de leur apporter mon soutien, car j'avais réussi à faire régulariser mon époux en lui faisant faire une reconduite volontaire au Mali pour aller chercher un visa long séjour conjoint de Français, en payant moi-même son billet d'avion aller-retour. Et c'est cette expérience qui m'a donné la force d'accompagner les étrangers dans cette épreuve.
Et justement, vous venez de parler de M. Doucouré, que vous-même, vous, qui a été reconduit au Mali. Et volontairement. Mais vous avez payé son billet d'avion. Comment vous avez vécu ce moment? Vous venez de vous rencontrer et puis d'un coup, on dit bah, il ne peut pas rester. Volontairement, il faut qu'il parte, même si c'est volontaire.
Alors, c'était douloureux. Je ne vous cache pas que j'avais la larme à l'œil, hein, parce qu'on se marie le 30 décembre 1995. Oui. Naïvement, je vais à la police, à la préfecture de police de Paris, parce que j'y connaissais rien. Oui. Et je vais demander comment faire pour que mon mari, avec mon livret de famille, tout ça, comment il peut faire pour avoir un titre de séjour.
D'accord.
Et là, le 8e bureau, on appelle ça les méchants. On sans papier, on dit, vous n'allez jamais au 4e étage.
Oui.
C'est l'éloignement. Et là, mon mari n'était pas avec moi, sinon on l'aurait peut-être gardé sur place. J'étais toute seule avec le livret de famille et son passeport. Mmh. Et donc, la police, elle me dit, allez chercher M. Doucouré, sa valise, ses vêtements, amenez-nous M. Doucouré pour qu'on le ramène au Mali. Et moi, là, pourtant je ne savais rien, mais je résiste. Je dis non, M. Doucouré, ce n'est pas un délinquant. Ils sont venus là de père en fils. Mon beau-père a combattu pour la France. Donc, comme il doit partir au Mali chercher son visa long séjour conjoint de Français,
oui,
je vais acheter son billet d'avion. Oui. Ils ont gardé le passeport, en otage. C'est comme ça qu'ils font la police, hein, parce qu'ils ne peuvent pas expulser quelqu'un s'ils n'ont pas de passeport. D'accord ? Donc, ils ont gardé en otage le passeport de M. Ducouré, mais moi, je savais que je ne leur avais pas menti. Et je vais dire, le lendemain, j'habitais Butte-Chaumont. Je fais toutes les agences de voyage de la rue de Belleville pour essayer d'aller chercher un billet pas très cher, parce qu'on venait de faire un beau mariage avec plus de 200 personnes. Oui. Donc, on n'était pas très riches. Mais n'empêche que j'avais pris mon engagement que c'est moi qui allais faire la reconduite de mon mari et non pas l'administration. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait et que M. Ducouré, un mois après... Alors, j'ai des photos à la maison où on me voit. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais je suis la seule blanche à l'aéroport avec le dossier de mon mari dans les bras. Les papiers, évidemment, son histoire. Et le policier nous attend à l'aéroport avec le passeport de M. Ducouré dans la main, parce que c'est le policier qui lui remet son passeport pour monter dans l'avion. Parce qu'il ne peut pas monter dans l'avion s'il n'a pas le passeport. Donc le policier, il nous attend à l'aéroport. J'ai été montré que j'avais acheté le billet d'avion à la police. Ils nous ont dit, on vous rejoint là-bas. C'est ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire une anecdote. À l'époque, ses frères, ses cousins, ses amis de Tambacara, il est de la région de Kai. Quelque part, ils ne me le disaient pas ouvertement, mais ils m'en voulaient. Parce que pour eux, je renvoyais leur frère ou leur copain en disant, elle n'est pas bien, celle-ci, il ne va jamais revenir aussi.
Ouais,
parce qu'il y a eu des couples qui ont été séparés comme ça pendant plus d'un an, un an et demi, où l'administration les a pris en otage, des couples mixtes comme moi. Et il y en a même qui sont revenus, que je connais personnellement de l'époque, qui sont revenus par l'Angleterre. C'était pas possible de régulariser directement entre le pays et la France. Eh bien, la femme est partie en Angleterre avec son mari pour après réintroduire ici dans les règles. Donc voilà.
Alors, il est parti au Mali. Vous avez payé son billet d'avion. Qu'est-ce qui s'est passé après, puisqu'il était revenu?
Mes beaux-frères m'ont dit « t'es trop forte Martine » parce qu'en fait, comme je suis quelqu'un de têtu, je pense que vous le voyez sur ma personnalité, pendant l'heure de midi, je travaillais à la protection de l'environnement à l'époque dans les Buttes-Chaumont pour les éboueurs. Bon, j'étais très entourée de mon milieu du travail. Franchement, ils ont été solidaires à mon égard. Le directeur m'avait dit « Martine, si vous avez des fax à envoyer, des pièces complémentaires que demanderait l'ambassade de France, vous venez dans mon bureau, le directeur, parce que lui, il avait des lignes internationales, des fax, pour pas que je paye trop cher à la poste. » Il m'avait dit « Vous venez, vous n'hésitez pas. » En fin de compte, j'avais bien fait mon dossier, donc je n'ai pas eu de pièces complémentaires. Mais ce qu'il y a, je les appelais. C'est-à-dire, j'ai fait un peu de pression. Le midi, pendant ma pause déjeuner, je rentrais chez moi, comme j'avais une ligne fixe. Et bien, j'appelais l'ambassade de France à Bamako pour ne pas lâcher l'affaire, de dire « Ils vont... » Et je suis restée en France exprès. J'aurais pu accompagner mon mari au pays. Mais je suis restée en France. C'était déterminé chez moi parce que je m'étais dit « Si jamais ils bloquent mon mari, peut-être que je me serais servi des médias ou d'autres choses. » Mais en tous les cas, j'étais là pour faire le combat.
Alors, ça, c'est le début du militantisme, ce qui a déclenché, ce qui a causé tout ce que vous faites aujourd'hui. Martine, le 23 août 1996, vous étiez là pendant l'évacuation musclée des sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris. Racontez-nous ce que vous avez vécu avec les occupants qui ont appelé des clandestins, terme que les associations et les ont dénoncé, car ces personnes avaient des papiers, titres de séjour, récépissés, de demande d'asile et même passeport et acte de naissance.
Oui, j'étais dans l'église Saint-Bernard pendant mon congé annuel. J'avais décidé de rester à Paris pour soutenir ces personnes et je ne suis pas partie en vacances. Je dormais sur le sol dans l'église aux côtés des 10 grévistes de la faim qui, eux, étaient allongés dans des sacs de couchage que leur avait fournis Médecins du Monde. Et il y avait avec nous, avec qui j'ai toujours des liens d'ailleurs, Graziella, de Médecins du Monde. Voilà, j'étais avec elle. Et il y avait aussi des soutiens comme Marianne Mouchkine, du Théâtre du Soleil à Vincennes. Il y avait l'actrice, la comédienne Emmanuelle Béart. Il y avait Valérie Lang, la fille de M. Jacques Lang, décédée actuellement, qui était là aussi avec nous. Il y avait aussi un très grand professeur, le plus grand professeur de cancérologie en France, le professeur Schwarzenberg, qui était là aussi. Il y avait l'abbé Pierre, c'était très émouvant parce qu'il était déjà très âgé. L'abbé Pierre venait nous soutenir au sein de cette église. Et on avait fait un collège de médiateurs.
D'accord.
Avec l'État pour faire ce rapport de force. Et au sein de ce collège de médiateurs, il y avait aussi de très grandes notoriétés, comme Stéphane Hessel, très grand ambassadeur, enfin, qui a toute une histoire, voilà. Alain Krivine, homme politique, Jean-Claude Amara, de l'association Droit Devant, etc. Il y avait dans ce mouvement aussi des délégués. Les délégués du mouvement, c'était les sans-papiers eux-mêmes. C'est-à-dire, pour les citer, c'était Diop Ababacar, qui était le porte-parole.
Qui était le porte-parole, oui.
Voilà. Vous aviez Cissé Madigan. Tous les deux étaient ressortissants sénégalais, sans-papiers. Et il y avait aussi une troisième personne porte-parole, qui était Doro Traoré, mauritanien. Je voudrais ici rendre hommage au Père Condé. Le Père Condé, c'est le curé de l'église Saint-Bernard. Mmh. Pour sa grande humanité, qui nous a quittés le 19 février 2018.
Voilà.
Cette occupation a abouti à la circulaire Chevènement le 24 juin 1997, qui a permis la régularisation de 80 000 étrangers sans papier en France. Voilà. Excusez-moi, je suis émue.
On sent l'émotion, ça rappelle des moments douloureux. Martine, on le sait, on le constate déjà. L'émotion est là, Martine. Vous regardez ces images, Martine. Oui. Je sais que vous les avez en tête. Vous oui. les revivez chaque jour.
Oui.
En regardant, en voyant, en revoyant ces images aujourd'hui que vous avez vécues, quel commentaire pouvez-vous nous faire là-dessus?
Le commentaire que j'ai fait d'ailleurs à des journalistes après l'évacuation, j'ai dit que c'était douloureux parce qu'il y avait des femmes, des enfants. Il y a même une femme sans papier qui a accouché dans l'église pendant l'occupation.
Oui.
Et quand vous entendez, vous avez 1000 CRS, 1500 CRS, gendarmes, vous les voyez ici à l'écran, qui avec une hache détruisent la porte pour rentrer par la force, parce que le curé, on savait, vous savez, pour vous expliquer, jour et nuit, on ne dormait pas, les soutiens. Nos grévistes étaient allongés dans leur matelas, mais nous, les soutiens, on était déterminés pour faire face aux forces de l'ordre. C'était pour nous un combat juste, donc il n'était pas question qu'on se sauve et qu'on laisse nos familles comme ça toutes seules. Donc on restait, et il y en a certains, des soutiens, qui ont pris les bancs dans l'église, les chaises, qui les ont montées les unes sur les autres, pour faire obstacle aux forces de l'ordre, pour pas qu'elles puissent rentrer, mais on était très, très, on était rien en rapport de force avec de telles forces de l'ordre.
Oui.
Donc en fait, le curé, il faisait une messe au moment où on a été évacué. On savait, parce qu'on avait les gens qui étaient à l'extérieur. Il y avait, faut vous dire qu'à l'époque, si vous regardez les images de l'époque, c'était formidable le soutien qu'on a eu. Ça aussi, j'en ai la chair de poule, parce que les gens traversaient la France entière pour soutenir les sans-papiers de Saint-Bernard. Ce n'était pas que des Parisiens. Les gens venaient de Valence, de Marseille, de partout, parce qu'ils trouvaient que notre cause, elle était juste. Elle était très médiatisée.
Oui, tout à fait.
Par beaucoup de journalistes, beaucoup de télévision. Donc, on a eu un soutien énorme, physiquement. Et donc, en fait, ça faisait chaud au cœur. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont pris les grévistes de la faim qui étaient déjà affaiblis, parce qu'il faut vous dire qu'ils ont fait 53 jours de grève de la faim. 53 jours, il y en a un qui est décédé après.
Énorme.
Fofana Amara est décédé, père de famille de 3 enfants. Il est décédé suite à cette occupation. Donc c'était énorme, 53 jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement Juppé, tout ça, quand ils ont donné le feu vert pour nous enlever par la force, c'est parce qu'il y avait le risque que ces personnes meurent.
Oui,
53 jours de grève de la faim. C'est terrible.
Oui.
Donc, c'est un petit peu ce qui a précipité Juppé et tout ça de prendre la décision. Il ne voulait pas avoir sur la conscience. Ça aurait été terrible. Dans une lutte de sans-papiers, qui est ces grévistes de la faim, une dizaine de personnes qui meurent pour cette cause.
Voilà.
Donc, c'est ce qui a précipité l'évacuation.
Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter tout à l'heure et regardez même Martine Doucouré avec plein d'émotions, avec plein de souvenirs en revenant sur ces moments passés horribles, si je peux me le permettre, du côté de l'église Saint-Bernard en 1996. Et sur ces mots, on va faire notre deuxième pause musicale. On va écouter la chanson de Saint-Bernard. Bernard, c'est
oui,
ça.
Et
puis
fait.
Nous, on va se retrouver juste après. Mais avant, sachez que nous aurons bien sûr un autre co-animateur du côté de Bordeaux à partir de 17h30, puisque pour des raisons diverses, il n'a pas pu démarrer cette émission avec nous. Et puis on se retrouve juste après, Israël.
Saint-Bernard,
sans papier,
sans papier,
Saint-Bernard,
Saint-Bernard.
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 colonisation,
ouais.
À la deuxième première guerre mondiale,
ouais.
Il y avait des tirailleurs sénégalais,
ouais.
Il y avait des tirailleurs marocains,
ouais.
Il y avait des tirailleurs indochinois,
ouais.
Il y avait des tirailleurs maliens,
ouais.
Il y avait des tirailleurs algériens,
ouais.
Il y avait des tirailleurs ivoiriens,
ouais.
Il y avait des tirailleurs camerounais,
ouais.
Les tirailleurs français en arrière,
ouais.
Les tirailleurs africains au front,
ouais.
Ils ont viré Hitler,
ouais.
Ils ont libéré la France,
ouais.
Aujourd'hui les Allemands sont acceptés,
ouais.
Mais les Africains sont niqués,
ouais.
À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Alain Juppé. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Alain Juppé. Jean-Marie Le Pen, l'original. Charles Pasqua, la photocopie. Alain Juppé, l'exécutif. Nous sommes tous des sans-papiers. Juppé, rendez-nous nos papiers. Juppé.
Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada
et sur le site www.radioarmada.fr.
Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada, l'application Armada téléchargeable sur Play Store et Apple Store, tout simplement si vous voulez nous suivre voilà, via vos téléphones mobiles. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Martine Doucouré avec nous dans ce studio, Zozo Flore aussi avec nous. Également, Martine, je signale, c'est juste, vous savez, vous ne le savez pas peut-être, à l'époque où vous êtes tellement, il y avait tellement de monde, tellement côtoyé à l'église de Saint-Bernard, il y avait le directeur de cette radio à Saint-Bernard également, M. Rabba Baloul, il vous l'a dit tout à l'heure, hein, il était là-bas aussi, vous avez milité ensemble, vous avez passé des nuits là-bas, et pour dire qu'il est aussi impliqué il était aussi impliqué dans cette lutte jusque-là déjà, hein, il apporte toujours son soutien à tout ce qui est de l'inégalité, de l'injustice, pour dire que oui, la lutte, ça ne finit pas, ça continue. Alors, on est parlé, on a ressenti, Martine, l'émotion. Vous n'avez pas pu garder vos larmes pour vous. Après Saint-Bernard, qu'est-ce qui s'est passé pour vous maintenant?
Ben, après Saint-Bernard, pendant des années, j'ai été un soutien militant auprès des collectifs de sans-papiers. Parce qu'à l'époque, les collectifs de sans-papiers n'étaient pas formés. C'était 300 personnes qui étaient parties de ce foyer, comme je vous ai dit, de Montreuil, avec trois leaders que je vous ai cités. Mais après, les leaders ont dit qu'il faut qu'on fasse des collectifs, de façon déjà à que les gens, on les accompagne, vous voyez, sur le droit juridique qu'ils ne connaissent pas.
Que
et puis le rapport de
coordonnée.
Force. Coordonné. Ça fait un rapport de force, vous voyez, qu'on ne soit pas dispersés les uns les autres. Voilà. Donc, j'ai été un soutien militant pour des collectifs de sans-papiers à Paris, CSP75, qu'on appelle, dont le coordinateur est Anzouman Sissoko, avec qui j'ai participé à l'occupation de la CPAM rue Baudelic de 2009 à mai 2010, soit 13 mois d'occupation et de lutte. Puis ensuite, à la sortie, il y a eu l'organisation de la marche Paris-Nice, 100 marcheurs sans papiers, et en 2012, l'organisation de la marche européenne à travers 8 frontières européennes. À chaque fois, ces actions ont permis la régularisation de quelques centaines de sans-papiers.
D'accord. Alors, Martine, avant de poursuivre avec vous, je reviens à Zozo Flore pour parler de son projet. Zozo, qui parle d'un projet, surtout pour la construction d'une école, parle des moyens matériels, des moyens financiers. Comment, par quels moyens comptez-vous réaliser ce projet?
Alors, comme je disais tout à l'heure, encore un grand merci au département du Val-de-Marne qui nous soutient. Et quand nous avons aussi marqué le coup pendant la Covid pour soutenir les SDF, voilà, nous a aussi soutenu encore à nouveau financièrement. Donc le département est un grand appui, mais la mairie aussi du Kremlin-Bicêtre. Et puis en parallèle, nous-mêmes aussi, nous avons déjà effectué des événements passés au mois de septembre et au mois de novembre 2019. Donc à travers cela, il y a des personnes qui se sont mobilisées au Kremlin-Bicêtre. Et d'ailleurs, pour nous soutenir pour la récolte des fonds, parce que c'était le but hein, des événements de septembre et novembre 2019. Donc, à travers aussi ce que nous faisons là d'ailleurs, le 20 et le 23 août 2020, nous avons encore la place au marché du Kremlin-Bicêtre pour pouvoir justement exposer la maquette et la distribution des tracts pour parler toujours du projet et justement des fonds qu'on peut avoir auprès de tout un chacun.
Justement, j'allais vous demander la collecte de fonds, comment ça se passe
Donc, en parallèle aussi, on a des personnes qui ont donné aussi, voilà, le dimanche dernier, voilà, directement. Et puis, on a la cagnotte en ligne Sulichi Monde Solidaire Nouveau, voilà, pour tous ceux qui ont envie de participer, peu importe la distance, hein, à ce projet-là de la construction de l'école. Donc, Litchi Monde Solidaire Nouveau, et aussitôt, ils auront le détail du projet.
Et justement, vous avez une page Facebook dont vous êtes administratrice, Zozo. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette page?
La page sur Facebook Monde Solidaire Nouveau, elle représente un peu l'association. Voilà, donc on essaie de la mettre à jour par rapport à ce qu'on fait. Même là, aujourd'hui, notre présence ici, on va rajouter ça tout à l'heure.
D'accord.
Donc, à travers cette page, les gens pourront déjà avoir des informations dessus. Mmh. Il y a une rencontre qui avait été organisée au mois de juin 2019 entre les deux maires, le maire de Boisflay d'ailleurs, qui était de passage à Paris, avec l'ancien maire, M. Jean-Marc Nicole. Donc, les deux maires se sont réunis parce que ce projet se fera aussi avec les jeunes. Il est important dès maintenant de pouvoir mettre les jeunes dans ce genre de projet, puisque c'est eux qui vont prendre la relève après. Donc, voilà. Et puis aussi, ça leur permet de découvrir aussi l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il y a des choses à découvrir, puisqu'on a quand même aussi le cacao, le café. Voilà, la Côte d'Ivoire aussi est riche, comme tous les pays
riche,
d'ailleurs.
Hein,
donc,
oui.
Il faut valoriser tout ça. Donc, voilà, donc ils ont échangé énormément sur tous ces projets. Donc, la suite, c'est la construction de l'école d'abord, et puis après, on verra.
Alors, quand vous parlez des jeunes, est-ce les ressortissants de la Côte d'Ivoire ou bien
non,
jeunes...
Mais c'est le monde.
Voilà, c'est le monde.
Merci
pour le mot. Et puis, voilà, alors, l'association, vous avez dit en quelques mots tout à l'heure que vous n'avez pas que le projet pour la Côte d'Ivoire, vous avez aussi pour d'autres pays.
Togo,
on va revenir un peu sur ça. Je ne sais pas si tu nous diras ce que vous comptez, vous avez prévu déjà de faire dans ces différents pays
tout
et quelles
fait.
Sont les cibles qui seront touchées à ce projet. Je vais revenir encore avec vous, Martine, aujourd'hui. Martine, donc vous avez tout à l'heure parlé, on parle de Saint-Bernard, on a parlé de vous, on a parlé de Saint-Bernard, on parle des sans-papiers, on parle de ce qu'ils appellent les clandestins. Aujourd'hui, quel regard faites-vous sur l'État face au traitement des sans-papiers en France? Vous aviez apporté, d'ailleurs, je le note, vous avez apporté récemment votre soutien aux travailleurs sans-papiers en lutte au chronopost d'Alfortville, dont à travers lequel on s'est connus, dont certains ont été régularisés grâce au soutien des militants, des syndicalistes et puis également d'autres structures de soutien aux sans-papiers.
Tout à fait. Alors, en fait, grâce à cette lutte visible, hein, parce qu'ils ont campé à l'intérieur de la cour de Chronopost, une occupation à l'intérieur des locaux. Ensuite de ça, évidemment, la police a pris des mesures de laisser à l'intérieur, il y avait une trentaine à peu près, si je ne me trompe pas. Et ils ne voulaient pas nous laisser, nous les autres, envahir plus Chronopost, d'accord, les entrepôts. Donc, on est resté à l'extérieur, dehors. D'autres sans-papiers, les soutiens, les syndicats, les collectifs, on était très visibles devant Chronopost pendant des mois. Et en fait, eh bien, le rapport de force, c'est toujours comme ça qu'on arrive à avancer, je dirais, sur ce sujet. À la fin, Chronopost, qui ne voulait rien faire, rien entendre, ni même le préfet d'ailleurs du Val-de-Marne, c'est toujours pareil. Quand vous êtes médiatisé et tout ça, ça dérange tout le monde, les politiques dans ce pays. Donc en fait, Chronopost a établi le kit employeur. C'est quoi ? C'est le CERFA. C'est les attestations de concordance pour les gens qui ont travaillé sur l'identité d'une tierce personne, hein, pour que les payes leur reviennent, sous la pression de la lutte courageuse de plusieurs mois de son papier dans cette entreprise. La France, deuxième puissance européenne, n'est pas courageuse en matière de régularisation des sans-papiers. Elle sait qu'ils sont environ entre 300 000 et 400 000 personnes sur notre territoire. Ces chiffres sont les mêmes qu'en 1996. Et elle régularise chaque année entre 30 000 à 35 000 sans-papiers. Quels que soient les partis politiques au pouvoir, la droite, la gauche, depuis 24 ans que moi je fais ça, les politiques et les médias font de la désinformation sur le sujet, alors que ces personnes participent au développement de la France par leur travail, où les Français ne sont pas demandeurs pour exercer les métiers exercés par ces immigrés. De plus, il faut dire aux Français que les sans-papiers dans notre pays, pendant la crise sanitaire Covid-19, ont continué de travailler dans les métiers suivants. Manœuvre dans le BTP et les travaux publics, agent de sécurité, agent de propreté de service, garde à la personne âgée, à domicile, les gardes d'enfants, en prenant des risques sanitaires pour leur santé et leur vie.
D'accord. Alors, avant de poursuivre, un petit commentaire de sa vie. Dernièrement, je pense bien ça ne date même pas, c'est dans ce mois, dans les semaines, on disait que l'Italie commence à rapatrier les migrants venant de la Tunisie, c'est-à-dire il y a eu ces derniers moments. Tu sais, généralement, on sait de la Libye, l'Italie ou de l'Espagne, du Maroc à l'Espagne, et cette fois-ci, c'est de la Tunisie en Italie. Quel commentaire faites-vous également sur ça?
Eh bien, moi, je dirais que j'ai dit dans une prise de parole, et là je crois que je l'ai noté aussi, c'est que moi je ne comprends pas qu'on a le droit de circuler la circulation pour les marchandises de ces pays, le cacao, le café, tout ça, c'est-à-dire qu'on permette la circulation des marchandises et pas des hommes, alors que dans les lois internationales des droits de l'homme, les conventions, tout le monde a le droit de quitter son pays pour aller ailleurs. C'est l'article 13 et 14 des conventions aux Nations Unies.
D'accord.
Et donc, ce qui est hypocrite, et puis je vais dire, je ne suis même pas fière de la France, et je le dis très ouvertement, parce que pourquoi ? Moi, depuis 24 ans que je fais ça, et ça, les chiffres que je vous donne, vous pouvez les vérifier par vous-même, citoyens. Vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, Immigration, vous avez les statistiques année par année, du nombre d'expulsions, du nombre de régularisations, année par année. D'accord ? Et quand vous allez chercher en Europe, puisqu'on fait partie de Schengen, on nous est Schengen, d'accord ? La France est la deuxième puissance économique au niveau de l'Europe. C'est celle qui régularise le moins. L'Italie et l'Espagne, en 2012, regardez les chiffres officiels, elle a régularisé 700 à 800 000 personnes. C'est-à-dire le double de ce que nous avons, nous, depuis 24 ans. Alors, pourquoi la France ne le fait-elle pas ? Pour des raisons politiques, politiciennes, tout simplement.
D'accord.
Pour moi.
Pourquoi la France ne régularise pas les sans-papiers comme comme l'Italie et l'Espagne ? C'est justement pour des raisons politiques. On va marquer notre deuxième pause musicale avec votre choix, le choix que vous nous avez fait dans cette émission. Et juste après, on essaiera de joindre notre ami Saïd qui nous suit et qui est co-animateur de cette émission du côté de Bordeaux. Et puis après, je serai là toujours avec ces deux dames dans ce studio, bien habillées, je le note, à l'africaine, et puis avec une belle couture, Flore également. Bah après, c'est pas trop, vous m'avez eu, sinon moi aussi, je me serais bien habillé comme ça. Mais bon, il n'y a pas de souci. On va écouter la deuxième pause musicale, c'est quoi ?
Alors, c'est une chanson très émouvante, très douloureuse aussi quand on écoute les paroles, mais tellement vraie. C'est notre ancienne ministre, Najed Vallaud-Belkacem, qui a écrit une chanson qui s'appelle Lampedusa. Lampedusa, c'est pour nous expliquer ces milliers de morts en Méditerranée qui quittent le pays par la Libye, etc., etc., et femmes, hommes, enfants qui n'arriveront pas sur nos frontières mais qui meurent en mer. Voilà, Lampedusa.
Écoutons ça.
La nuit tombe sur la rive, les lumières faiblissent déjà, bateau ivre à la dérive, gouvernail rame de bois, pas grand chose pour qu'il chavire. Au beau milieu du détroit, ils n'étaient pas faits pour 10, ils sont 30 entassés là. Arrivés de ces frontières, portes closes à double tour, assoqués de toutes leurs peines, cœur à l'envers, souffle court. Tout largué là-bas, pays, femme, enfant, racine, pour un rêve qui se noie. Dis-toi qui dans nous guette, au fond, quel était leur choix. Entre l'exil et la quête, ils ne sont plus d'ici ni là. Arrivés de ces frontières, portes closes à double tour, assouqués de toutes leurs peines, cœur à l'envers, souffle court. Par le destin, l'âcre goût de la misère, l'impuissance et le chagrin, et défaillir le cœur d'une mère quand vient l'heure pour son gamin d'aller s'offrir à d'autres mères pour espérer vivre enfin.
Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada
et sur le site www.radioarmada.fr.
La clarté dans cette chanson que vous venez d'écouter de Najed, c'est ça? Mesdames et messieurs, nous avons notre ami, mais avant cela, je vais vous lire ce petit commentaire de Isabelle Vaha qui nous dit « Militer est un acte noble, vous en donnez la preuve, Martine, c'est pour vous. »
Merci.
Ben voilà. Merci également à toi, Isabelle Vaha, qui nous suit depuis, je pense bien, Savigny-sur-Orgue, quelque chose. Ben voilà, je rappelle qu'elle elle a été mon invitée. Elle est passée ici. Nous avons fait une superbe émission. Et puis avec également Julien Ledge de la CGT. Et franchement, c'était un bon débat. Eric s'en souvient forcément de ce programme. Ben voilà, Saïdou, il est avec nous. Mon co-animateur de cette émission qui n'a pas démarré cette émission avec nous, mais pour des raisons diverses, donc on ne va pas rentrer dans tout cela. Finalement, il est là pour reprendre le train en marche. Saïdou, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à Martine et bonsoir à
Flore.
À notre piloteur, c'est-à-dire Israël. Notre technicien.
Israël.
Bonsoir à tous ceux qui sont présents en studio.
Alors, comment ça va? Tu as le salut également de Eric Durand, Eric Legrand, également Landry et tout le personnel d'ailleurs. Hein?
Oui, là je vous suis en direct comme toujours. En tout cas, au début, je vous ai écouté et... Mais je ne voulais pas quand même te faire signe avant l'heure.
Ben, puisque c'était l'heure. L'heure, c'est l'heure. Hein
les débats sont engagés et ouais. Les échanges sont très instructifs.
D'accord.
Depuis que j'ai commencé à vous écouter.
D'accord.
En tout cas, il y avait de l'émotion tout à l'heure. Mmh. Bah oui, j'étais dans l'émotion quand j'ai écouté Martine avec tout le récit qu'elle nous, nous a tenu au début de l'émission.
Oui.
Et parlant aussi de l'association, j'ai aussi gratté quelque chose. Mmh. On en parlera tout à l'heure.
Bah allez, déjà, tu peux poser directement si vous avez des questions à Martine et également à José. Zozo. Bah attends, Flore, tout court. Excuse-moi, Flore. Hein. Allez, vas-y, Saïdou.
Ma première question s'adresse à Flore. J'aimerais bien savoir si le projet va s'étendre au-delà du Bénin, du Togo, qu'elle a évoqué dès le début. Mmh. Quand nous voyons aujourd'hui l'Afrique, elle a besoin de beaucoup de choses, elle a besoin d'un développement, mais mmh. ce développement ne peut passer que par l'éducation. Mmh. On sait déjà... que l'Afrique peine à avoir de très bonnes écoles,
oui.
Mais ce qui nous fatigue aussi, c'est le droit à l'école pour tous, le droit à l'école pour des jeunes filles qui sont dans des coins reculés en Afrique, le droit à la scolarisation aussi, à des jeunes qui ont des familles qui n'ont pas assez d'argent. Oui. Est-ce que l'association s'investit de plus dans ces différentes familles? Est-ce que c'est le but de l'association, s'investir dans ces familles qui n'ont pas les moyens de soutenir les enfants pour qu'ils puissent être de grands cadres de demain qui pourront apporter assez de choses à la nation, au développement de la nation?
En gros, la scolarisation des jeunes filles.
Bonsoir. En fait, l'école pour laquelle nous nous mobilisons, elle existe déjà. Voilà, il est bon quand même de préciser les choses.
Allez, montre-nous l'image, va voir l'image.
La cause, la question que vous avez posée, elle est bien claire, mais je tenais aussi à préciser que nous sommes en train de nous mobiliser pour quelque chose qui existe déjà. Voilà, donc nous, on ne fait que vraiment, on va dire, élever les murs appropriés pour que vraiment les enfants puissent être dans ce cadre-là. Mais maintenant, les zones reculées où il n'y a même pas d'école, c'est sûr qu'on va y travailler aussi. Voilà, il faut bien commencer. Et puis, vraiment, on est plus concentré vraiment sur cette action-là. Parce que l'école, comme j'ai dit, elle existe déjà. Il faut relever les murs. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Donc, ça se fera. Mais pour le moment, on est d'abord sur celui-là.
Alors, je ne sais pas. Saïd, avant de poursuivre à poser des questions, moi, la précision que je voulais savoir, Flore, construire une école dans des localités comme ça, je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable. Mais la question est, quelle va être la suite après la construction de l'école? Puisque moi, je connais dans certains pays, il ne suffit pas de construire l'école. Ils ont des écoles dans des localités un peu reculées de la capitale, loin de la capitale. Ben, ils sont en manque d'enseignants. Quelle va être la suite pour vous après la construction de cette école?
Alors, nous, on est en contact, l'association est en contact avec les enseignants, voilà, l'inspecteur académique de l'enseignement scolaire et préscolaire. Donc, tout est déjà mis en place. Sur cette école-là dont nous parlons, ce qu'il faut, c'est vraiment les murs et un lieu approprié. Mmh, voilà, d'accord. Tout est déjà mis en place. Les enseignants sont déjà disponibles.
Ben, c'est important. Voilà. C'est d'où à vous?
Oui, je peux, Alassane?
Allez-y.
Ok, ma deuxième question s'adresse à Martine. Récemment, moi j'ai vu un article sur Mediapart qui parle du déconfinement des droits des sans-papiers. Aujourd'hui, est-ce que vous... On est sorti du déconfinement, ça c'est côté sanitaire, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le droit des sans-papiers est toujours confiné?
Alors, par rapport à la crise sanitaire, j'en parle dans mon intervention, j'irai presque à la fin, parce que tout le monde a pu constater, c'est facile à démontrer aux hommes politiques et à tous les citoyens, que le Covid, ça a été quelque chose de très grave, hein, qui a touché tout le pays et d'autres pays, hein, mondial, on va dire, avec des milliers de morts. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là, les sans-papiers, ils n'ont pas arrêté de travailler. Et ils sont visibles. Et comment ils sont visibles? Quand vous regardez le déconfinement, si je ne me trompe pas, c'était le 22 mai. Il suffisait de regarder votre télévision, les actualités, puisqu'on nous a montré beaucoup BFM et les autres chaînes, comment se passait le déconfinement. Eh bien, quand vous regardez les transports en commun, je suis désolée de dire ça, qui étaient les visages que vous voyez dans les RER et dans le métro? C'était les gens issus de l'immigration.
Ils étaient très exposés.
Très exposés. Et nous avons fait... Alors, j'ai une amie, une sociologue, avec d'autres personnes, qui, sur Montreuil, il faut savoir qu'il y a 150 personnes qui, depuis des années, sont dehors, dans une cour, hiver comme été, depuis longtemps. Et il y a un collectif de soutien qui s'est mis auprès de ces personnes. Et il a fallu qu'on fasse, les citoyens comme nous, lambda, qu'on sollicite Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, pour qu'ils viennent voir ces immigrés. Il y en avait qui étaient fatigués, ils n'avaient pas d'eau, ils étaient dehors, ils n'avaient rien pour se faire à manger. C'était les citoyens qui leur apportaient à manger, qui leur permettaient d'aller faire une douche. Et même au niveau sanitaire, nous avons craint, les soutiens, que... il y a une bombe sanitaire au sein des foyers. Quand vous pensez que le gouvernement n'a pas été capable, parce que là, c'est des foyers à risque qui le connaissent, le gouvernement.
En tout cas, je sais que ça a été signalé, ça a été dénoncé par les associations.
On a écrit des lettres. Et puis, les maires, il a fallu faire des manifs et de la pression face aux mairies pour leur faire prendre conscience, et au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour faire conscience que c'était très grave qu'on laisse ces gens de côté. Parce que d'abord, eux, on ne pouvait atteindre à leur vie, mais eux, ils pouvaient contaminer Les citoyens que nous sommes.
Oui, tout à fait.
Hein, c'était à pas fait. Que de penser... c'était penser à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est irresponsable. Franchement, ils n'ont pas eu de dépistage. Parce que moi, j'ai interrogé Médecins Sans Frontières. C'est mis en rapport avec Adoma, qui est une société de foyers migrants.
Oui.
Et justement, quand on a commencé à parler que ces migrants, ils n'avaient pas les conditions d'une vie normale, même pour avoir au niveau de l'hygiène et tout, quoi, leur nourriture et tout, oui. Eh bien... Il a fallu qu'on insiste, et c'est là qu'il y a eu du bénévolat. Là aussi, c'est du bénévolat. Ce n'est pas l'État qui l'a organisé. Mmh. C'est Médecins du Monde, les Médecins Sans Frontières, à Montreuil, qui ont voulu aller faire... Ils avaient mis une affiche dans les foyers. Moi, j'en ai sondé 4 foyers de gens qui me connaissaient. Mmh. Je voulais être au courant pour pouvoir dire l'État a pris les choses en main. Dans les foyers migrants, c'était un truc explosif. Mmh. Non, pas du tout. Les gens... Il y a une affiche en bas, quand le gérant a accepté d'ouvrir sa porte à Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières,
oui.
Qui sont présentés. Moi, je pensais qu'ils allaient leur faire un prélèvement, ce qu'on fait pour voir s'il y avait des gens qui étaient malades parmi eux.
D'accord.
Eh ben non, pas du tout. Ils sont venus. Il y en a qui m'ont dit, Martine, ils ne m'ont pas fait le prélèvement, alors qu'ils sont restés sur place, ils n'ont pas été travaillés parce qu'ils pensaient qu'on aurait fait leur prélèvement pour les rassurer. Et il n'y a pas eu de prélèvement de fait. Ils les regardaient, pas de prise de tension. Pas de prise de température, rien. Ils n'ont fait que passer. Mais ça, ce n'est pas l'État qui l'a organisé. Il faut dire les choses aussi. L'État n'a rien organisé sur les foyers migrants. Ce sont des humanitaires qui se sont dit, là, il y a danger. Ça risque d'être très grave.
Du coup, si je comprends, pendant toute la crise, il n'y a pas eu de véritable mesure d'accompagnement,
non.
D'aide.
Par rapport au Covid, non.
Voilà, c'est dommage.
C'est dramatique.
Alors, Sédou, vous avez d'autres questions?
Oui, cette fois-ci, je m'adresse à Flore. En voyant aujourd'hui l'Afrique sur son train de la scolarisation des enfants dans des zones reculées, elle nous a quand même rappelé tout à l'heure que le projet est déjà en marche et tout. Mmh. C'est une très bonne chose. Mais quand on prend l'Afrique dans sa société entière, bon, par exemple, moi, en Guinée, à chaque fois, il y a des manifestations. Il y a en tout cas un trouble sociopolitique dans le pays, chose qui dysfonctionne, qui occasionne souvent les dysfonctionnements dans l'éducation des enfants qui ratent des années, qui sont plongés dans des crises interminables.
Oui. Bon,
les politiques, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ASSO a des mesures ou des garanties face à ces familles qu'elles aident pour les rassurer que même s'il y a, par exemple, troubles politiques ou des manifestations qui s'enchaînent, les enfants auront quand même droit à une éducation, même si elle est virtuelle, où il y aura des forums sur lesquels des profs volontaires pourront s'engager pour donner des cours aux enfants, pour qu'ils puissent suivre une éducation quand même harmonieuse.
Alors, moi, j'ajoute, vous savez, j'aime... c'est lui, il pose des questions très, très pertinentes, c'est très important, il faut le dire. En tout cas, c'est important de souligner ce volet. Aujourd'hui, la situation en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe actuellement, c'est pas trop... il y a des mouvements, il y a des tensions, des mouvements de manifestation, de contestation. Est-ce que ce projet ne sera pas impacté par ces crises ou c'est, bon, pour l'instant, ce n'est pas une crise, mais avec tout ce qui peut se passer, est-ce que le projet ne risquerait pas d'être impacté?
Je remercie la question d'ailleurs, Zaidou, pour sa question. En ce qui concerne la proposition, l'idée que vous avez pour un suivi au cas où il y aurait, on va dire, ce qu'on sait déjà, dont on a l'habitude, quoique c'est pas des bonnes choses. Oui, là on pourra effectivement le mettre en place si d'ici là on part, si tout va bien, Covid ou manifestation ou je sais pas quoi. Il y a tellement de choses qui se passent en Côte d'Ivoire et dans le monde d'ailleurs.
Hein. Bah, bien
donc
sûr,
on va prendre aussi, je prends note en fait de ce que vous avez dit. D'ailleurs, donc on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place au-delà de la construction, parce que
c'est important.
Disais que il n'y a pas que la construction. Voilà, donc c'est la construction avec une bibliothèque à l'intérieur, mettre en valeur nos écrivains qui sont sur place. Voilà, donc ce projet, c'est vrai que je parle de construction, mais il est long. Donc il y a la construction, il y a aussi une bibliothèque qui sera ouverte pour mettre en valeur nos écrivains, inciter la jeunesse à lire, à aussi aimer ce qu'il y a d'abord dans le pays. Voilà, se rendre compte que nous avons aussi des choses bien. Voilà, donc il y a tout ce paramètre à prendre en compte pour la construction de cette école.
Donc
je prends note.
Si je comprends, ce n'est pas que d'élever les murs. Hein. Vous allez construire, équiper et mettre tout en place afin que...
Il y aura des vêtements qui seront distribués aussi. Donc c'est tout un ensemble la construction. Hein. Il y aura vraiment un suivi.
L'école, elle va être publique ou privée?
Elle est publique.
Et c'est l'État qui va payer les enseignants?
Les enseignants sont déjà payés parce qu'ils enseignent déjà sur place. Oui. Là, c'est les vacances, bien sûr. Donc oui.
Donc là, c'est juste une, comme on l'a vu les images tout à l'heure, c'est juste changer l'image. L'école, voilà. Elle est là, mais on a besoin d'un bâtiment, on a besoin des vraies classes avec tout ce qu'il faut pour assurer une bonne éducation des enfants de Boisflay, c'est ça?
Boisflay, en Côte d'Ivoire.
Boisflay, t'as combien de kilomètres d'Abidjan?
Alors les kilomètres, je ne sais pas trop les compter, mais je sais que ça fait deux heures et demie maximum.
En tout cas, tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, vous êtes bien sûr dans l'émission Au cœur de l'histoire. Et c'est Zozo Flore, président de l'association...
Monde solidaire nouveau.
Monde solidaire nouveau avec également Martine Doucré dans ce studio pour parler des sans-papiers, également de sa lutte et de son soutien aux sans-papiers. C'est où? Est-ce que vous avez d'autres questions ou je poursuis?
Oui, toujours des questions.
Allez-y, tu dois en avoir puisque tu es venu en retard.
Par rapport aux sans-papiers, et là, cette fois-ci, on va donner la main à Martine, qui est d'ailleurs bien habillée, je tiens à le souligner.
Ouais,
elle a
bien
dans une tenue que j'adore bien.
Ouais.
Voilà, elle vient de l'Afrique. Hein. Bon, on va partir à l'essentiel. Voilà, Martine, j'aimerais savoir... Dans votre engagement, c'est très salutaire de défendre des gens qui vivent dans un pays dont ils ne sont pas issus.
Véritablement originaire, oui.
Même si vous êtes très engagé, est-ce que il est possible de régulariser tout le monde? Est-il possible de régulariser tout le monde?
Et comment ça doit se passer?
Il ne suffit pas seulement de les donner des papiers. Est-ce qu'il Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de suivre ces gens auxquels on donne des papiers pour que tout le territoire ne soit pas... Bon, je ne vais pas quand même dire ça à l'antenne.
En fait, être mieux accompagné, régularisé et être accompagné pour l'obtention du travail et puis ainsi de suite, afin que ça ne sera juste pas, allez, tiens, vous avez votre papier et puis on vous laisse aller où vous voulez.
Non, justement, mon engagement, il va plus loin que l'accompagnement dans la demande de régularisation. Juste pour une petite historique, en 1995, quand donc je me suis mariée avec mon mari qui était ressortissant malien sans papier, j'expliquais aux amis que les sans-papiers, ils restaient dans la clandestinité, ils appelaient ça comme ça, pendant 10 ans, 10 années sur ce territoire, sans pouvoir avoir de titre de séjour. Au bout de 10 ans, année par année, ils apportaient aux préfectures leurs preuves. Et à l'époque, on donnait une carte vie privée vie familiale sans demander aucune trace de travail. Ils étaient régularisés, mais il fallait attendre 10 ans, ce qui est énorme. Moi, j'ai déjà dit à l'État, parce que j'ai quand même été auditée à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Intérieur sur ce sujet, j'ai dit que c'est comme si on assignait ces gens à résidence. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, parmi les sans-papiers que j'ai régularisés, il y en a plein qui sont restés 10 ans sans pouvoir avoir de titre de séjour et qui ont perdu leur papa ou leur maman sans les avoir revus. C'était douloureux. Ils venaient me voir au MRAP pour faire leur deuil. Je faisais le deuil avec eux pour les accompagner. Ça, c'était comme si on assignait des gens à résidence. C'était terrible. Maintenant, au-delà, grâce aux luttes, je veux dire, des associations, des syndicats, il ne faut pas oublier, c'est dans les années 2004, 2005, je me rappelle de Besson, Sarkozy, tout ça, que la CGT a fait... Parce que nous, on disait les associations... Ces gens travaillent dans notre pays. Ce n'est pas des gens qui sont ici pour tendre la main, pour faire la manche, pas du tout. C'est des gens, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, et vous le savez comme moi, en plus, pourquoi c'est terrible. Quand ces gens-là gagnent un SMIC, mais si vous saviez, pour moi je disais que c'est des esclaves de mon État, la France, pourquoi? Parce que l'argent que tu donnes pour avoir ton matelas, pour dormir dans un foyer à ton copain qui a décidé de t'héberger, non pas te laisser dans la rue, SDF par exemple, l'argent que vous envoyez au pays, chaque mois, avec les Western Union, les RIA et compagnie, pour subvenir aux besoins de la famille, soit alimentaire, soit médical, etc. C'est ça qui se passe. C'est ça qu'il faut dire, qu'on ne dit jamais aux Français. On ne montre pas cette image concrète. Et c'est ça qui me dérange quand on parle de l'immigration, en montant les gens les uns contre les autres. Ils développent leur pays. Moi, que M. Ducouré, à Tambacara, puisqu'il est Tambacara dans la région de Caille, nous avons fait mettre... On a cotisé dans les foyers, il faut voir, il y a des communautés ici en France, elles sont très bien organisées, comme vous, madame, qui veut faire une école, et ça, c'est très bien, moi, je félicite, parce que c'est les immigrés qui construisent les pays, qui s'appellent Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, ce n'est pas vos autorités, et c'est ça qui me fait mal, parce que des fois, il y en a qui me disent, les Français, ils nous ont pris ici, ils nous ont pris là. Je dis, arrêtez de parler comme ça, l'indépendance de vos pays, elle remonte à 1960, moi, je fais partie des Françaises qui ont été militantes, non pas pour avoir des papiers, mais pour la contraception, le droit au travail. Ma mère n'avait pas le droit de travailler. Elle a fait 9 enfants, il n'y a pas de contraception. Et elle n'avait pas le droit de travailler. Moi, quand je commence à la préfecture de Paris, une femme n'a pas le droit de porter un pantalon, par exemple. Je dis ça aux gens, parce que c'est la vérité. Vous voyez, on a fait des luttes. D'ailleurs, il y a une grande dame qui vient de nous quitter, Gisèle Halimi, hein, dont vous avez entendu parler récemment, qui était une très grande combattante, hein, de respect des droits des femmes et tout ça. C'est grâce à toutes ces luttes-là, il faut dire la vérité. La France, elle ne va pas faire d'appel d'air. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, parce que les gens confondent beaucoup de choses. Les sans-papiers économiques, c'est ce que je m'occupe depuis Saint-Bernard. Ce sont nos anciennes colonies françaises qui sont venues de père en fils ici pour gagner leur vie, pour vivre mieux. Ils partent parce que s'ils avaient ce qu'il fallait chez eux, ils ne viendraient pas en Europe, premièrement. Mais il ne faut pas confondre avec les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ce sont d'autres lois internationales. Ça n'a rien à voir avec les sans-papiers économiques dont je m'occupe. Ce sont des migrants aussi qui ont le droit de venir en Europe. Mais même là, c'est même honteux. Quand vous regardez la chapelle, certains endroits à Paris, on devrait avoir honte, la France, de voir ces gens, dans quel état ils sont, alors qu'ils devraient avoir la protection internationale, au moins jusqu'à temps qu'on ait statué sur leur droit d'asile avec... qu'il l'est ou qu'il refuse. D'accord ? Là, l'Europe et la France s'organisent politiquement pour payer les uns et des autres, pour rejeter ces gens à la mer, pour les repousser C'est ça qui se passe. Même des humanitaires ont été pris en otage, on les a insultés alors qu'ils faisaient un travail noble, comme ce qu'on vient de voir. Je suis un peu peinée, je suis sur l'émotion de ce qui vient de se passer au Niger, comme vous pouvez imaginer. Hein, c'est des gens qui ont un peu le même fondement que moi. Moi, je dis, je me suis engagée dans la Croix-Rouge. Quand vous engagez dans des trucs comme ça, c'est parce que vous avez envie d'aider l'autre.
Oui.
On ne regarde pas sa religion ni sa couleur de peau. Comme je dis dans mon interview, je dis, pour moi, les migrants sont des humains. Ils sont des humains comme moi, c'est ça que je dis. Et ils ont un mot naissance et ils auront un mot mort. Mais au moins, qu'on respecte les gens.
Alors, vous pensez que... Il y a les moyens de régulariser tout. Je sais qu'il y a un nombre important.
Bien sûr, c'est rien, 400 000 sans-papiers. Je suis désolée. Regardez les chiffres officiels que vous avez tous dans le site du ministère de l'Intérieur. En 2012, l'Italie et l'Espagne régularisent 700 000, 800 000 personnes.
Alors
que nous, on est à 400 000 depuis Saint-Bernard. C'est révoltant. C'est révoltant.
Pour vous, c'est un refus ou un manque de volonté?
C'est un manque de volonté parce que c'est la politique politicienne, comme je dis, entre la droite et la gauche. Pour avoir le pouvoir, si vous remarquez chaque élection, hein, moi je répercute ce que vous devez entendre comme moi, chaque élection qu'il y a dans ce pays, on parle toujours de l'immigration, mais en négatif.
D'accord.
On
ne
valorise jamais les gens. On ne valorise pas leur travail. Regardez, Paris a été cassé sur la voie publique, les travaux publics et tout, pour refaire les sous-sols et ceci, le métro et tout ça. Qui sont les gens qui travaillent? C'est des sans-papiers d'Afrique noire et du Maghreb. Ça se voit, il n'y a pas besoin d'être policier ni RG, je suis désolée.
Martine Ducouré, vous, Zozo Flore. Zozo, vous avez parlé des projets pour le Bénin et d'autres pays. Dites-nous, c'est quoi ce projet? Qu'est-ce que vous comptez faire hors de la Côte d'Ivoire?
On a effectivement le contact d'une personne déjà qui travaille au sein d'un centre de santé. Donc, il souhaiterait, on va dire, la réhabilitation du centre. Parce que celui qui est là, au Togo, là-bas, n'est pas très conforme. Donc,
c'est
voilà.
Pas dans la capitale, je pense.
Non, c'est pas dans la capitale.
Voilà, parce
c'est
que
vraiment,
c'est
encore plus loin.
Dans les provinces, dans les villages, sont vraiment dans le besoin. Et alors, tout en poursuivant avec vous, vous nous avez choisi deux morceaux. Et le deuxième, on a écouté le premier. Le deuxième, c'est quoi?
Anomira.
Anomira. On va écouter Anomira. Comme nous tendons vers la fin de cette émission, certainement, ça doit d'autres questions pour Martine et Flore. Et puis voilà, on va conclure cette émission et en beauté, voilà, sous l'œil de mon cher Eric Durand. On écoute ça.
Mes yeux sont rivés sur toi, éternel. Mes yeux sont rivés sur toi. Comme les yeux du serviteur sur la main de son maître, comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Thank you.
cœur de l'histoire, tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Armada.
Et sur le site www.radioarmada.fr.
Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve encore pour la suite et fin de cette émission. Seydou qui se trouve du côté de Bordeaux, Zozo, Flore et Martine Doukoury dans le studio avec nous. Sous, bien sûr, la réalisation Israël assistée par Landry, le tout coordonné du côté silencieusement par Eric Durand. Merci. Eh ben voilà, ça me fait plaisir, franchement, quand tu es dans le studio, puisque voilà, les petits gestes, tu vois, ça nous donne de l'adrénaline, tout simplement. Et vous qui nous suivez d'ailleurs partout, sur la toile, la page de la radio et sur le site à www. N'hésitez pas à télécharger l'application Armada sur Play Store et Apple Store, où vous pouvez vraiment voir tous les programmes de l'émission, du programme de la radio. Il y a plein de surprises à la rentrée. Vous ne serez pas déçus d'avoir choisi la Radio Armada. Martine, Seydou, Zozo, on est là, bientôt la fin de cette émission. Seydou, est-ce que tu as une dernière question, puisque ça va être le mot de la fin des invités?
Oui, une question pour Flore. Bon, la dernière question d'ailleurs pour Flore. Depuis des années, les formateurs, c'est-à-dire les enseignants, font recours aux mêmes méthodes d'enseignement en Afrique. Je connais particulièrement la Guinée, le Mali, le Sénégal, bon, la Côte d'Ivoire aussi, certainement dans les écoles publiques. Souvent, les programmes ne changent pas du tout. Et pire, les formateurs n'ont pas de chance de suivre des formations pour améliorer leur façon d'enseigner, leur façon de donner la connaissance aux enfants. Alors, Flore, est-ce que vous donnez cette chance aux enseignants de pouvoir s'améliorer, de pouvoir se former à chaque fois pour ne pas qu'il y ait de la répétition, même si on dit que la répétition est pédagogique, pour ne pas quand même qu'il y ait de la répétition dans la façon d'enseigner, pour qu'ils adoptent une autre façon afin que les enfants puissent avoir une formation solide?
Pour le moment, c'est pas prévu, mais avec ce que vous venez de suggérer, on prend note.
Parce qu'il y a plein de besoins, vous savez, l'école, ça parle beaucoup de choses, c'est vaste, c'est vague. Quand on parle, vous construisez l'école, il faudrait que vous ayez des enseignants compétents, il faudrait que vous ayez des enfants qui doivent occuper ces salles de classe, il faudrait que vous ayez des matériels qui, pour permettre aux enfants d'avoir une éducation vraiment réelle et solide, vous voyez. Donc je pense que ce sont des notes que votre association envisagera pour pouvoir toucher à tous ces points nécessaires, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Ben voilà. Alors, c'est d'où pour Martine?
Oui, pour Martine, en tout cas, il y a, j'aimerais dire qu'il y a, que les migrants représentent, bon, d'autres le diront, une chance, même si je ne dirais pas chance, mais quand même un atout considérable pour l'évolution de l'économie française, l'évolution certainement aussi de la façon de penser de la société française, parce que moi, je connais beaucoup de migrants, beaucoup de personnes qui sont venues soit légalement ou illégalement en France, mais qui après quelques années ont réussi quand même à s'adapter au mode de fonctionnement de la société française et à comprendre réellement comment évoluer dans cette société. Il y a beaucoup quand même de barrières, hein, mais il faut franchir la barrière. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez de l'espoir pour ces migrants qui souvent sont des gens qui sont laissés pour compte, même s'ils ne sont pas laissés pour compte totalement, hein, il ne faut pas aussi se plaindre à outrance, mais il faut mesurer en partant dans les critiques, dans la revendication, on le fait avec respect. Est-ce que vous avez de l'espoir pour cette jeune génération qui est abandonnée aujourd'hui dans les rues de France?
Je dirais qu'il faut que tous les citoyens de mon pays et de l'Europe comprennent que tous ces immigrés ont et contribuent chaque jour au développement de la France, comme j'ai déjà dit, dans divers domaines. Bâtiments, travaux publics, aide à la personne, garde d'enfants, métier de la restauration. Mais qu'est-ce qui est bien aussi et intéressant, que moi j'apprécie, ce sont les échanges humains, culturels. quand moi j'ai marqué, dans le milieu sportif, nous avons des athlètes de très haut niveau issus de l'immigration. Vous avez des artistes, écrivains ou chanteurs issus de l'immigration, hein, n'est-ce pas ? Et puis au niveau, je vais dire, la cuisine. Moi, quand je me rappelle en 70, manger un avocat, ça se trouvait pas, un avocat. Ça paraît idiot aujourd'hui de vous dire ça. Moi, j'ai mangé mon premier avocat dans le restaurant de Carlos, le chanteur, le Bistingo à Saint-Germain-des-Prés. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, vous voyez ces échanges entre pays, les patates douces, tout ça, on ne connaissait pas dans notre pays. Il faut dire la vérité. Donc, pour moi, c'est merveilleux. Enfin, moi, je tire une richesse humaine. Alors, mon rôle va plus loin que d'accompagner les sans-papiers, puisque je fais les dossiers, ils sont tous régularisés, d'accord ? Par le travail, beaucoup. Hein, je ne parle pas du droit commun, parce que le droit commun, c'est autre chose, c'est une autre loi. Mais les sans-papiers, je vais dire économiques, ils sont dans les collectifs, on aime qu'ils soient dans les collectifs, comme ça on leur passe des informations, on les soutient. Comment construire leur dossier de présence ? Ils ne savent pas. Ça, c'est une grande aide. Bon. Et ensuite de ça, moi, je vais au-delà. Je veux que ces gens-là, comme vous disiez tout à l'heure, quand ils ont un titre de séjour, la vie ne s'arrête pas au titre de séjour. Il faut les accompagner pour qu'ils aient un logement social, qu'ils aient un logement. On leur dise qu'ils aient des droits à formation. Comme n'importe quel citoyen lambda de mon pays, comme les Français. Nous avons des bibliothèques, vous voyez, on n'est pas dans un pays où il manque de bibliothèques, d'écoles, tout ça. Moi, j'ai des adultes qui ont été à l'école pour avoir leur carte de résident. Puisqu'on en met un certain niveau de français, ils savent travailler, mais comme ils n'ont pas été à l'école, madame, et c'est pour ça que votre projet est formidable, et qu'il faut vraiment s'y atteler, merci. Il faut vraiment s'y atteler, et j'y crois, et on a besoin, dans tous les pays, c'est pas un seul, c'est tous les pays, il y a ce manque. Et malheureusement, ce sommes nous, vous, les immigrés qui sommes ici dans notre pays, c'est des soutiens comme moi et d'autres associations que nous faisons un peu, je veux dire, le boulot de ce qui devrait revenir aux États. Et qui sont vraiment défaillants. Mais nous ne devons pas nous décourager. Comme je vous ai dit, moi, les immigrés, c'est des êtres humains comme moi. À partir du moment où on considère que ce sont des êtres humains qu'on doit respecter, on doit les aider dans le respect. Voilà.
On doit les aider dans le respect. C'est le mot de Martine Doucouré. Martine Doucouré. Alors, Flore, c'est la fin de cette émission. La radio, c'est l'heure. Quel est votre mot de la fin ? Quel appel aujourd'hui avez-vous pour conclure tout ce que vous avez dit sur ce projet ?
Ben, déjà, merci à tout le monde. Et puis, merci aussi à Martine hein, pour tout ce combat de longue année. Hein, vraiment du courage encore. Et l'association Monde Solidaire Nouveau, effectivement, a deux autres événements qui viennent le 20 et le 23 août. Au marché du Kremlin-Bicêtre, donc on va présenter la maquette et la distribution des tracts pour tous ceux qui veulent faire des dons, que ce soit sur Litchi Monde Solidaire Nouveau pour la construction de l'école, donc des dons de vêtements, des cartables, donc tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc on aura aussi au mois de novembre, comment on appelle ça, un événement festif, si Corona nous permet d'ailleurs. Donc faites un tour sur la page de l'association Monde Solidaire Nouveau, il y a tous ces détails dessus. D'accord. Je vous remercie.
Voilà. Martine, à vous, le mot de la fin.
Mais moi, le mot de la fin, j'aimerais, comme j'ai dit, j'ai sélectionné un petit morceau de musique qui fait une historique de qui étaient ces immigrés, qu'on décrit tant. Il ne faut pas oublier, moi, je vous ai dit au début que je suis une fille de militaire, n'est-ce pas ? Pupille de la nation. Et moi, j'aimerais qu'on termine par Ancien combattant de Zao. Et ça, tout dans ses paroles.
Ça va être fait. C'est doux.
Merci.
C'est la fin de l'émission. Votre mot de la fin également ?
Merci à Flore, merci à Martine, merci aussi à notre technicien et merci à Eric Durand qui nous suit, même si moi je ne le vois pas, j'aurai la chance de le voir après l'émission. Merci quand même à tous nos auditeurs aussi qui ont pris le temps de nous suivre. Je dis simplement que les deux dames étaient bien prêtes. Je suis satisfait de toutes les réponses données et j'espère les revoir si je suis à Paris. Voilà, avec le raccord. Merci beaucoup.
Ben voilà, merci, c'est la conclusion des animateurs de cette émission. On écoute Ancien combattant de Zao et nous on se retrouve le mercredi prochain avec d'autres invités et d'autres thèmes bien sûr à débattre. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci.
Merci
Alassane. Merci à tout le monde. Moi, engagé militaire, moi, engagé militaire, moi, pas besoin de galop, soutez-moi du riz. Serza Massamba, trahir moi, engagé, caporal, mitsotso, la guerre pour moi, y'a beau chercher vos sorrows. Yisatra, yisatra, tata, tata, moi, gâtre, moi, c'est le frein, ça tombe, pas couvert, l'imbané, commande à cafoua, mais le coup de quoi, ni moutou. Beto ba militaire, beto ba militaire, muntu sakana, tu couvri kweto. Moga pepe, moga pepe, moyinga kanga kwe, moga pepe, moyinga kanga kwe. Makelepa, un, deux, on sait combattant, on a soukéré. Makelepa, et un, deux, on sait combattant, on a soukéré.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Peter mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand. J'ai tué Angélais, moi j'ai tué Tchécoslova qui m'a quéré pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré. M'a quéré pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas Michangi, mon chéri, ho, y'a cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, pas t'attra, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre. Ton grand-père est cadavre. Ton père est cadavre. Tes enfants cadavre. Les rois cadavre. Les reines cadavre. Les empereurs cadavre. Tous les présidents cadavre. Les ministres cadavres, les gardes-corps cadavres, les montagnes cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavres, ton deuxième bureau cadavres, la bière cadavres, le champagne cadavres. Le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique globe cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même est cadavre, marquez-le pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukiri, marquez-le pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukiri. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient à la guerre, tout le monde affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer.